Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une princesse méconnue, souvent oubliée, qu'on a guillotinée à l'âge de 30 ans tout juste, que Franck Ferrand a choisi de nous faire mieux connaître aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Cette princesse exemplaire était la plus jeune sœur du roi Louis XVI. Elle était donc la belle-sœur de Marie-Antoinette. Madame Élisabeth de France, née 10 ans avant l'avènement de son frère, elle n'aura que 25 ans au moment de la prise de la Bastille. 25 ans à l'époque, c'était l'âge de la majorité, il faut le rappeler.
Et pour nous parler de cette femme, vous avez invité deux historiennes.
Eh oui, deux femmes en effet qui consacrent leurs recherches à notre 18e siècle en général et à la famille royale en particulier. Hélène Becquet est chartiste, auteure d'une biographie de Madame Royale dont elle était venue nous parler. Quant à Anne Bernet, c'est sa belle biographie de Madame Élisabeth qui m'a donné l'idée de cette émission. Et pour tout vous dire, je m'étonne de ne pas l'avoir fait plus tôt.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Quand j'étais étudiant et que je séchais certains cours pour me rendre à Versailles, et c'est pas un exemple du tout, hein, et parcourir jusqu'à l'épuisement ce domaine saturé de souvenirs historiques, l'une de mes escapades favorites était de marcher assez loin sur l'avenue de Paris jusqu'au domaine de Montreuil, tout imprégné du souvenir d'une princesse charmante, idéale même, à la fois discrète et forte, sage et pleine d'un feu rentré. Cette princesse, hélas, la grande histoire l'a un peu oubliée, il faut le dire. Elle est condamnée par la postérité à jouer les utilités, pour ne pas dire les figurantes, dans le long calvaire de la famille royale sous la Révolution, de Versailles aux Tuileries, des Tuileries au Temple et du Temple à l'échafaud. Cette princesse était née Élisabeth Philippine Marie-Hélène de France. Elle était donc la petite fille de Louis XV. Elle sera la sœur de Louis XVI, la tante de Louis XVII. On a pris tôt l'habitude de l'appeler Madame Élisabeth. On raconte souvent que dans le convoi désordonné, vous savez, il faut imaginer une foule énorme qui, au moment des journées d'octobre 1789, ramène à Paris le roi et ce qu'il reste de la famille royale. Une grande partie de la famille a déjà émigré. On disait à l'époque le boulanger, le boulangère et le petit mitron qu'on ramenait à Paris. Eh bien, en passant devant sa belle et discrète propriété de Montreuil, Madame Élisabeth aurait fait un petit signe en direction de sa maison. « Vous saluez Montreuil ?» aurait demandé Louis XVI. « Non, sire, je lui dis adieu. » Madame Élisabeth est tout entière dans ce trait, nostalgique, résignée, honnête, mais avant tout lucide. Tout à l'heure, dans la partie récit de l'émission, je vais prendre le temps de vous lire un certain nombre d'extraits des dernières lettres que nous possédons de cette jeune princesse. Et vous verrez jusqu'où a pu aller cette lucidité, cette intelligence des situations qui ne se paient pas de mots, et cette intelligence dont on peut dire qu'elle voit en quelque sorte la vie telle qu'elle est. « Pour le moment, j'aimerais revenir à Versailles, sous Louis XV, en ce printemps 1764 où Madame Élisabeth a vu le jour. Son père est le dauphin Louis, Louis-Ferdinand de France, c'est le seul fils survivant de Louis XV. Il va mourir de la tuberculose à Noël 1765, vous voyez donc très peu de temps après la naissance de la princesse. Il était âgé de 36 ans seulement, autant dire que la petite Élisabeth n'aura pas le temps de connaître son père. » Quant à sa mère, la dauphine Marie-Joseph, une princesse allemande venue de Saxe, elle va suivre son mari dans la tombe 18 mois plus tard. On peut dire, enfin certains ont dit que Marie-Joseph avait poussé la fidélité conjugale jusqu'à contracter la même maladie que son époux. Elle est elle aussi morte de la tuberculose et elle aussi est morte à 36 ans. Ainsi donc, Élisabeth l'aura également très peu connue. C'est une petite orpheline de parents, de père et de mère dont nous allons parler aujourd'hui. Ce bébé est le cinquième et dernier enfant survivant du couple Delphinal. Il faut dire qu'il y en avait eu quatre auparavant qui sont morts en bas âge. Ceux qui restent en 1767 sont donc le duc de Berry, bien entendu, Berry Dauphin, qui va devenir Louis XVI en 1774. Donc à ce moment-là, Élisabeth aura 10 ans. Le comte de Provence, qui après la Révolution va devenir Louis XVIII. Le comte d'Artois, qui un jour sera Charles X. Madame Clotilde, alors elle, on l'oublie tout le temps, cette pauvre Madame Clotilde. On l'appelle gros madame à la cour, hein, parce qu'elle est assez bien portante. Et elle épousera le roi de Sardaigne en 1775. Et puis donc, Madame Élisabeth, dont je vous propose cet après-midi de retracer la courte existence. Je viens de vous dire que Madame Clotilde avait un certain embonpoint. C'est également dans le cas de Madame Elisabeth. Ça ira d'ailleurs vraiment croissant avec l'âge. Je ne vous ai pas parlé du tout de son physique. Elle avait un visage rond et un long nez, des yeux bleus et une coiffure large, nous dit un témoin du temps. Et si l'on en croit les témoignages de ses contemporains, elle était d'une grande fraîcheur avec le charme d'une jolie bergère.
Tiré sur Europe 1, extrait du Requiem de Mozart. A tout de suite pour mieux connaître Madame Elisabeth.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Anne Bernet, qui est historienne et journaliste, auteure notamment de Madame Elisabeth, celle qui aurait dû être roi chez Talandier. Et puis Hélène Becquet, chartiste, elle enseigne à l'IEP de Sciences Po Paris. Et elle est auteure quant à elle de Marie-Thérèse de France, l'orpheline du Temple, chez Perrin.
Alors, celle qui aurait dû être roi, c'est ce qui figure sur le bandeau de la biographie, mais ce n'est pas tout à fait le sous-titre de cette biographie, qui est une biographie comme on les aime, si je puis dire, Anne Bernet, dans cette émission. C'est-à-dire que, exactement à l'instar de votre personnage, de votre sujet, vous ne vous payez pas de mots, pas de longue introduction, pas de conclusion philosophique ou de mise en perspective historique. On commence avec la naissance, on finit avec la mort, si je puis dire, et vous suivez Madame Elisabeth, dans une vie qui a été beaucoup moins calme, beaucoup moins dolente que ce que l'image en a retenu.
Depuis 220 ans, nous avons de Madame Elisabeth une image sulpicienne, mièvre, fade, doloriste, absolument insupportable, qui a fait beaucoup de tort à la princesse. Or, quand on se penche sur sa correspondance, sur les témoignages de l'époque, nous découvrons une jeune femme décidée, intelligente, remarquablement intelligente, scientifique de très haut niveau, d'un caractère très fort, beaucoup plus pauvre Louis XVI.
Pardon, j'interromps une seconde, mais quand vous dites scientifique de très haut niveau, on sait qu'au moment de la Révolution, on va même lui demander de confier à un certain nombre de savants ces tables logarithmiques, parce qu'elles ont été mieux établies, semble-t-il, que celles dont on disposait à l'Académie.
À l'École navale, extraordinaire compliment.
Oui.
Elle a 26 ans à l'époque.
Voilà. Pardon, je ferme la parenthèse.
Et cette jeune fille, extrêmement décidée, qui a une lucidité, comme vous le disiez tout à l'heure, hors du commun, un sens politique qui fera défaut à son frère et à sa belle-sœur, va se retrouver confrontée à la Révolution avec immédiatement la certitude que Louis XVI ne prend pas les mesures nécessaires. Et malheureusement, elle n'est qu'une femme. Elle est toute jeune, elle est la petite sœur. Elle avait 10 ans lorsque son frère est monté sur le trône et il a beaucoup de mal à voir autre chose en elle qu'une petite fille. Ce n'est tout à fait qu'à la fin qu'il se rendra compte qu'il avait auprès d'elle la meilleure conseillère possible et qu'il ne l'a jamais écoutée.
Et d'une fidélité à toute épreuve, hein, puisqu'elle suivra la famille royale jusqu'au bout du calvaire et qu'elle sera elle-même exécutée donc au printemps 1794. Très tard d'ailleurs, et nous verrons tout à l'heure vers la fin de l'émission, nous verrons dans quelles conditions ça n'est pas sans poser un certain nombre de grandes questions historiques. Alors revenons à l'époque où tout va encore bien, si je puis dire, même si elle va perdre très tôt, je l'ai dit, hein, et son père et sa mère. Elle est cette petite princesse élevée dans le cadre doré de la fin du règne de Louis XV à Versailles. Un cadre doré, mais qui est un peu une cage, néanmoins. On peut dire, Hélène Becquet, que ça n'est pas toujours très agréable, la vie de princesse à Versailles.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une vie qui est contraignante. Elle est soumise, tout enfant, au protocole très lourd de Versailles.
La fameuse étiquette.
La fameuse étiquette. Hein. Il faut bien s'imaginer que ces petites princesses recevaient des visites au berceau, qu'elles mangeaient en public, qu'elles étaient effectivement entourées d'un personnel, mais qui n'est pas qu'amical. Hein, c'est vraiment, ce sont des gens qui sont là. Donc elle a 8 femmes de chambre autour d'elle. Ils sont là avant tout pour rappeler qu'elle est d'un rang très au-dessus du reste de la société.
Ça, elle possède une maison, même si
elle
c'est
possède
une petite maison
ouais. à l'enfance.
Oui. Alors, elle est élevée par la gouvernante des enfants de France, qui n'est pas une femme facile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas une maman très... Ce n'est pas une nounou, si je puis dire.
Ce n'est pas une maman du tout. Madame Élisabeth, comme sa sœur ou comme sa nièce, sont entourées d'un personnel pléthorique, mais l'affection, la tendresse la plus élémentaire y manque de manière tragique. Madame de Marsan était veuve à 18 ans.
Donc c'est la gouvernante.
C'est la gouvernante des enfants de France. Elle était veuve à 18 ans. Elle n'a jamais trouvé un mari digne d'elle. Elle ne s'est donc jamais remariée. Elle n'a donc jamais eu d'enfant. Et elle n'éprouve aucun sentiment maternel pour ses deux petites filles qu'on lui a confiées. Un peu plus pour Clotilde. Vous le disiez tout à l'heure, Clotilde n'est pas jolie. Donc elle va un peu la dorloter. Mais Élisabeth va en souffrir.
Et plus elle a l'impression qu'on préfère sa sœur, qui est vrai du reste.
Ce qui est vrai, elle est jalouse. Elle se met en colère, et plus elle se met en colère, plus on trouve que c'est une enfant difficile. Et ce qui est très frappant, c'est que ces défauts qu'on va lui reprocher, qu'on va s'acharner à casser chez elle.
D'autant plus qu'elle n'a plus ses parents. Il ne faut pas l'oublier, ça joue un rôle très important.
Il n'y a personne pour se mettre entre elle et Madame de Marsan.
Exactement.
Eh bien, ces défauts, ce sont ceux qu'on aurait entretenus chez un garçon.
Eh oui.
Et elle aura toujours le sentiment que, eh bien, si elle avait été un garçon, on l'aurait laissé développer ce qui était au fond des qualités, de courage, de force, de décision. Et comme elle le dira un jour, « Ah, si j'étais roi !» Malheureusement, ce sont des qualités qu'on avait cassées également chez son frère, mais pour d'autres raisons.
Oui, il faut dire qu'avant le duc de Berry, celui qui va devenir Louis XVI, il y avait eu un frère aîné, entre autres, mais qui était le duc de Bourgogne, et pour lequel Louis XV avait une véritable tendresse, et la mort du duc de Bourgogne a cassé chez le grand-père une sorte d'affection paternelle qu'il n'a pas du tout été capable ensuite de reporter sur le cadet. Nous venons à cette histoire versaillaise dans un instant, et puis surtout nous allons voir quelle a été la formation intellectuelle de cette princesse, parce que même si le terme est anachronique, je crois qu'on peut dire qu'elle était une intellectuelle.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1, Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI.
Et oui, la plus jeune sœur de Louis XVI, qui va accompagner la famille royale jusqu'au bout. Alors, nous sommes encore à la fin du règne de Louis XV. On peut dire qu'au moment où son frère, où le grand-père meurt et où son frère devient le roi, elle n'a que 10 ans. C'est encore une petite fille à ce moment-là.
C'est une petite fille et c'est d'ailleurs pourquoi ses frères se désintéressent d'elle. Quel est le garçon de 16, 18, 20 ans qui s'intéresse à la petite sœur de 10 ans? C'est assez normal, c'est la petite dernière.
Ouais.
Mais malheureusement pour elle, Louis XVI restera très longtemps persuadé que sa petite sœur est toujours une enfant.
Alors, elle va néanmoins recevoir une éducation très remarquable. Hein. On lui apprend, on lui donne des notions dans bien des domaines.
Grâce à Madame de Marsan, et paradoxalement parce que celle-ci déteste Rousseau. Or, dans les Mille, Madame de Marsan a lu que Rousseau disait qu'une fille était trop sotte pour pouvoir aborder des sujets philosophiques et penser par elle-même et qu'il fallait la laisser à des travaux d'aiguille.
Alors, elle va prouver le contraire.
Elle va prouver le contraire. Et Madame de Marsan va donner à Clotilde et Élisabeth une éducation très poussée, y compris dans des domaines difficiles, les sciences, les mathématiques, la philosophie, l'histoire, les langues étrangères. Et elle va en faire des jeunes filles brillantes sur le plan intellectuel. Et Madame Élisabeth va poursuivre ses études bien au-delà de l'âge habituel, qui est 14 ans pour une princesse. À 18-19 ans, elle poursuit ses études de mathématiques et de sciences. Aujourd'hui, elle aurait un très haut niveau universitaire.
Alors, ce qu'il faut préciser tout de suite, et évidemment, c'est une part très importante de la vie de cette princesse, c'est qu'elle est d'une grande piété. C'est une nature très religieuse.
Oui, comme je dirais, presque toute la famille royale à l'époque, même si on a parfois quelques doutes sur le comte de Provence, et
qui deviendra
Louis XVIII plus tard. On s'est posé finalement assez tôt la question de la vocation religieuse de Madame Élisabeth. Alors c'est une question qui est un peu controversée. On lui a proposé, en tout cas le roi et la reine lui ont proposé à un moment l'abbaye de Remiremont. Elle aurait pu donc devenir abbesse d'un couvent prestigieux. Et la princesse a refusé. Peut-être parce qu'elle n'avait pas la vocation, peut-être aussi parce que finalement, alors, elle voilà. était bien à la cour.
Et oui, elle était bien à la cour. Et ça, c'est la grande découverte, en tout cas pour moi, de cet ouvrage d'Anne Bernet. C'est qu'elle avait, un ami de cœur, si je puis dire. Elle a eu une histoire amoureuse, cette princesse. On ignorait cette histoire.
C'est très curieux parce que ça apparaît nettement dans ses lettres. Mm-hmm. Cet homme qui est si beau, dit-elle, elle en parle depuis les années 1780. C'est son médecin, le docteur Dassy, qui lui sera fidèle, mais jusqu'à la fin, d'abord parce qu'il fera partie du réseau de correspondance qu'elle met au point avec l'étranger. Il risquera plusieurs fois sa tête pour faire passer des lettres depuis les Tuileries. Puis surtout, ce qui est tout à fait admirable, c'est que, sachant que cette histoire d'amour platonique n'a aucun espoir d'aboutir à quoi que ce soit, elle poussera Dassy à la quitter, à se marier. Et le jour de la mort de Madame Élisabeth, il passera rue Saint-Honoré à l'instant où la charrette emmène Madame Élisabeth à la guillotine. Il fera une crise cardiaque. Et il en mourra 48 heures plus tard, le cœur littéralement brisé.
C'est extraordinaire.
C'est dire à quel point il s'aimait. Mais dans le silence le plus absolu, comment le tout petit docteur Dassy, tout petit médecin, aurait-il pu lever les yeux vers la sœur du roi de France ?
Oui, ça, c'était vraiment ce qu'on appelle des amours impossibles.
Totalement.
Et en même temps, qui visiblement les ont tenus l'un et l'autre pendant toute leur existence. C'est assez extraordinaire. Quel âge avait-il au moment où il meurt, lui de...
Il devait avoir la petite quarantaine.
Ouais, c'est ça, il avait une petite dizaine d'années de plus qu'elle, en fait. Ouais, c'est une histoire assez extraordinaire que vous racontez, que vous expliquez, que vous démontrez, notamment grâce à la correspondance de la princesse.
C'est ce voilà, cette correspondance qui a été pourtant largement exploitée, mais on dirait que pendant 200 ans, on a hésité à dire que Madame Élisabeth avait pu être amoureuse, comme si c'était un crime. Or, il y a eu ce jeune homme qu'elle a passionnément aimé, mais cela contrarie cette image de vocation religieuse qui restait attachée à elle, et qui est probablement fausse. Elle y a peut-être songé quand elle avait 15-16 ans, et puis elle a compris que ce n'était pas sa vocation. Et pourtant, on est resté cantonné dans cette idée, sans doute parce qu'il était difficile de faire entrer ce qu'on peut appeler la sainteté de Madame Élisabeth dans des structures classiques. Elle était trop en avance sur son temps, au XIXe siècle, on ne comprenait pas. Oui, on a donc occulté cette
histoire. On voulait en faire une sainte sans plus.
Voilà. Plus religieuse, ça aurait été mieux, ça aurait été plus pratique.
Oui. Alors, on a pensé à la marier, notamment avec l'infant de Portugal. La reine aurait bien aimé la marier avec son propre frère, Joseph II. Ce qui d'ailleurs n'aurait sûrement pas été une bénédiction pour Madame Élisabeth.
Non, parce que Joseph II n'avait pas un caractère particulièrement facile. Il y a eu des projets. Était-il réel finalement ? C'est assez peu probable. En tout cas, avec Joseph II, il y a quelque chose d'étrange qui se passe au XVIIIe siècle, c'est qu'on prend finalement à la cour de France l'habitude d'avoir des filles qui restent à demeure. Finalement, il y a peu de sorts plus enviables que celui d'être née fille de France. C'est l'un des plus hauts rangs en Europe. Et finalement, épouser un petit prince, quel intérêt pour une princesse de ce rang-là ? Je pense que ça a joué beaucoup sur le sort de Madame Élisabeth aussi.
Madame Élisabeth était malheureuse à Versailles, c'est la raison pour laquelle, dès qu'elle le pouvait, elle allait se réfugier dans la demeure que lui avait offerte son frère, que lui avait offerte le roi. C'est la demeure de Montreuil. Nous arrivons dans quelques instants du côté de Montreuil et du côté de la Révolution française aussi.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec une émission consacrée à cette princesse exemplaire, la plus jeune sœur du roi Louis XVI, donc la belle-sœur de Marie-Antoinette, c'est Madame Élisabeth de France.
Et oui, Madame Élisabeth de France, dont nous parle Anne Bernet, qui vient d'écrire cette belle biographie, Madame Élisabeth, qui paraît chez Talandier. Et puis Hélène Becquet, qui est l'auteur d'une autre biographie, alors sur la nièce de Madame Élisabeth, sur Marie-Thérèse de France, l'orpheline du Temple, qui est parue au début de l'année chez Perrin. Je disais à l'instant que Madame Élisabeth n'aimait pas la cour et s'enfuyait à chaque fois qu'elle le pouvait du château de Versailles. En fait, ça n'est pas son lieu d'élection, Hélène Becquet.
Non, elle préfère se réfugier à Montreuil. Alors, comme elle n'est pas majeure, elle est obligée de n'y rester que la journée.
Elle ne peut pas dormir chez elle.
Mais cela dit, elle fait finalement un peu comme la reine à Trianon. Alors, de manière plus modeste et avec moins de frais. Mais c'est un petit peu, on a l'impression que cette famille royale, pourtant en apparence plutôt plus unie qu'avant, il y a plus de liens familiaux entre eux que d'affection, je dirais. Plus de proximité qu'avant.
C'est une famille plus moderne, on pourrait presque dire,
d'une certaine
un peu à l'anglo-saxonne.
Exactement. Mais malgré tout, chacun en même temps sans le besoin d'avoir son chez-soi. Et donc chaque membre de la famille royale a son...
Le comte de Provence à Balbi, le comte d'Artois au temple et à Bagatelle.
Oui. Donc chacun son petit chez-soi d'une certaine façon. On se retrouve entre amis, en caricaturant.
Et alors, quand on dit entre amis, et là c'est amis IES, c'est particulièrement vrai pour Madame Elisabeth, dont les amis sont très chers et très présentes.
Mais il faut dire aussi que Madame Elisabeth est mineure et l'étiquette prévoit qu'une princesse mineure jusqu'à son 25e anniversaire n'a pas le droit de recevoir d'hommes dans son cercle.
Et voilà, tout simplement.
Si elle est amoureuse du docteur Dacy, c'est que c'est le seul homme qui l'approche. Il faut penser que comme sa meilleure amie, Angélique de Bombelle, met au monde son premier enfant, c'est un garçon, et... Les dames d'honneur diront à Madame de Bombelle, surtout, surtout, ne changez pas l'enfant devant Madame Elisabeth. Mmh. On en est là. Par conséquent, elle n'a que des amis incroyable. IES, elle n'a pas le choix.
Oui, il y a une espèce de pruderie extrême qui contraste tellement avec ce qui peut se passer par ailleurs à la cour, mais loin, loin des regards, en quelque sorte. Louise de Causans a été une des amies de Madame Elisabeth et la princesse a fait preuve à son sujet, à son égard, d'une incroyable sollicitude.
Les demoiselles de Causans sont les filles de ces dames d'honneur. Elles sont trois célibataires que leur mère n'a pas les moyens de marier. Elle veut les mettre dans un chapitre de chanoinesse à Metz. Elles n'ont pas la vocation. Madame Elisabeth se révolte. Cette jeune fille très pieuse a horreur des vocations forcées. Et elle dit à Louise, l'aînée, qui est sa meilleure amie, « Je te marierai, je te doterai ». Et elle va effectivement lui trouver un très beau parti, un jeune homme de la noblesse lorraine, Monsieur de Rachecourt. Et malheureusement, les Rachecourt ont des exigences. D'habitude, la dot d'une jeune fille est d'environ 100 000 livres, ce qui est déjà une très grosse somme. Et les Rachecourt vont demander le double. Madame Elisabeth, qui touche moins de 50 000 livres par an de dotation royale, qui a déjà réussi à en économiser 50 000, où vais-je trouver 150 000 livres supplémentaires ? Et elle, qui est d'une timidité extrême, va demander à son frère de lui avancer tout simplement 5 années de ce qu'il lui donnait pour ses étrennes. Et son frère lui dit « Oui, mais nous sommes en pleine crise économique. Si je vous les donne, vous n'aurez vraiment plus rien pendant 5 ans. » Et elle lui répond « Peu m'importe, j'ai ma Rachecourt. »
C'est ça, moi je n'ai rien, j'ai ma Rachecourt. C'est ce qu'elle disait donc au moment où le roi distribuait les étrennes et il ne pouvait pas en donner à sa sœur. Il lui faisait un baiser et il lui disait « Mais bon, voilà. » Elle avait eu cette avance et grâce à ça, elle avait fait le bonheur. Enfin, pensait-elle. Mais ce qui sera le cas du reste.
Qui sera le cas. Madame de Rachecourt ne s'est jamais plainte de son mari. Ça faisait grincer des dents l'autre dame d'honneur, Madame de Bombelle, qui disait « Oui, elle n'est pas difficile. Rachecourt, il est sourd comme un pot. » Ce qui était vrai, mais Madame de Rachecourt s'en accommodait très bien.
Alors, on est là dans les années 1786-87. On s'approche évidemment à grands pas de la Révolution française. Et ce qui est assez étonnant, et là encore, ce sont les correspondances qui nous renseignent le mieux. Ce qui est étonnant, c'est que cette jeune princesse, elle est encore une fois mineure à l'époque, et sans doute de la famille royale, celle qui comprend le mieux ce qui est en train de, se passer. Hélène Becquet.
Oui, alors en tout cas, elle redoute ce qui est en train de se passer plus peut-être que la famille royale. Je pense qu'il y a une véritable différence de d'idées entre elle et son frère.
Oui. Louis XVI et Marie-Antoinette
et sa belle-sœur. Louis XVI et Marie-Antoinette ont une vision, ils sont prêts à certaines concessions en fait à l'égard de la Révolution. Ils pensent qu'il faut moderniser la monarchie pour dire les choses un peu rapidement. Madame Elisabeth, elle, non. Elle pense qu'il faut peut-être changer certaines choses, mais plutôt dans le sens de plus de pouvoir au roi. Donc, elle se retrouve extrêmement inquiète de tout ce qu'elle voit devant elle et peu à peu grandit une opposition, hein, il faut le dire, entre elle et Louis XVI. Et Madame Elisabeth va se retrouver, alors son frère Artois, qui est le frère avec lequel elle s'entend le mieux, émigre dès 1789 et elle va se retrouver en fait le porte-parole de son frère Artois auprès de Louis XVI avec des querelles manifestement familiales à certains moments qui ont pu être très vive.
Est-ce que c'est le caractère très fort de la princesse s'alliait à une certaine compréhension du monde ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'il y avait une ouverture de sa part, Anne Bernay ?
Oui, il y a malgré tout chez elle une profonde charité envers les hommes. Elle peut détester les idées. Elle n'est jamais hostile aux hommes. On le voit très bien, par exemple, lors du retour de Varennes, où elle se retrouve à côté de deux députés Pétion et Barnave. Bon, Pétion, ce sera particulièrement pénible.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'elle suit la famille royale aux Tuileries et qu'ensuite, au moment de ce qu'on a appelé la fuite à Varennes, donc le 20 juin 1791, elle fait partie de l'équipée, elle aussi. Hein. Elle est avec la famille, elle est rattrapée chez l'épicier Sauce, là-bas à Varennes, et il y a ce retour épouvantable vers Paris sous les crachats de la foule. Enfin, c'est une chose terrible.
Et pour montrer à quel point son frère et sa belle-sœur se méfient d'elle, le jour de la fuite à Varennes, elle est prévenue vers 20h, pratiquement au moment de partir. On ne lui a rien dit. Mais ce retour à Varennes, justement, qui la met en contact avec ce qu'on appelle les hommes de la Révolution, Pétion ou Barnave, eh bien, elle s'y prend si habilement avec ces deux jeunes hommes qui ont la petite trentaine tous les deux, qu'elle réussit réellement à retourner Barnave. Barnave, dès le retour à Paris, deviendra un agent de la famille royale. Il le paiera de sa tête à Grenoble en 93. Et ça, c'est très largement Madame Élisabeth qui réussit cela. Si elle était bornée, si elle était incapable de faire preuve de compréhension, évidemment, elle ne parviendrait pas à ce genre de résultat.
Alors, cette participation assez modeste, finalement très en marge de Madame Élisabeth aux événements révolutionnaires, nous la voyons et nous la touchons du doigt à travers ce qu'elle écrit, et notamment à ce qu'elle écrit à cette fameuse Madame de Rachecourt dont vous parliez tout à l'heure, qu'elle avait si bien dotée et à laquelle elle avait donné une si grande preuve d'amitié. Nous venons à ces lettres qui sont les dernières, enfin parmi les dernières lettres de Madame Élisabeth dans un instant.
Le récit de Franck Ferrand.
Et Franck nous lit maintenant des extraits des dernières lettres de la jeune princesse, Madame Élisabeth.
Et oui, c'est Madame Élisabeth donc, qui écrit à Louise de Causans, qui est devenue Madame de Rachecourt, qui se trouve maintenant à Luxembourg, où elle était émigrée. Hein, et grâce à une descendante de cette Madame de Rachecourt, qui s'appelle la marquise de Caslan-Esparon, elle avait confié cette correspondance à André Thévenet au tout début des années 80, il y a une trentaine d'années. On a donc le témoignage direct de Madame Élisabeth qui se trouve encore à Paris, évidemment, et qui se trouve notamment aux Tuileries à partir du moment où, après les journées d'octobre, ce qu'on appelle les journées d'octobre, les émeutiers sont allés chercher le roi, la reine et la famille royale à Versailles. « On nous a ramenés aux Tuileries, écrit la princesse, où rien n'était préparé, mais nous avons dormi de l'excès de fatigue. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous sommes prisonniers ici. Mon frère ne le croit pas, mais le temps le lui apprendra. » Vous voyez cette clairvoyance, hein, encore une fois. Nos amis pensent comme moi, que nous sommes perdus. Il ne nous reste d'espoir qu'en Dieu, qui n'abandonne pas ceux qu'il choisit. Mon frère est pleinement résigné à son sort. Sa piété augmente avec ses malheurs. Alors, on va voir la princesse peu à peu trouver raison dans les événements, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a cette fameuse fuite à Varennes, dont nous parlions à l'instant. Donc là, on est à l'été 1791. Cette fuite à Varennes, elle était née en vérité d'un gros problème par rapport à la constitution civile du clergé. Vous savez, c'est un problème religieux essentiellement. La princesse refuse pour sa part tout ce qui est décidé dans ce domaine. « Je t'écris, » écrit-elle donc toujours à sa confidente, « dans un moment bien satisfaisant pour quiconque croit en Dieu et en son Église. » C'est très ironique, évidemment. Hein. « Les curés intrus sont établis ce matin. J'ai entendu toutes les cloches de Saint-Roch et je ne puis vous dissimuler que cela m'a mise dans une fureur affreuse. » Le caractère qui ressort, la petite fille, qui n'était pas facile déjà à l'époque. Et vous savez qu'au moment de Pâques, en avril 1791, le roi devait aller fêter Pâques à Saint-Cloud et puis il y a eu une sorte d'émeute qui l'a empêché de sortir. « Nous avons eu, » écrit Madame Élisabeth, une petite scène hier. Le roi voulait partir pour Saint-Cloud, mais la garde s'y est opposée, et si bien opposée que nous n'avons pu passer la porte de la cour. On veut forcer le roi à renvoyer les prêtres de sa chapelle, ou à leur faire le serment, et à faire des Pâques à sa paroisse. Voilà la raison de l'insurrection d'hier. Le voyage de Saint-Cloud n'en a été que le prétexte. La garde a parfaitement désobéi à Monsieur de Lafayette et à tous les officiers. Heureusement, il n'y a point eu de malheur. Quand elle dit « il n'y a point eu de malheur », il n'y a pas eu de sang versé, en quelque sorte. Alors, on s'attend, après tous ces événements, à ce que ça aille de plus en plus mal. Il y a, le 14 juillet 1792, le premier anniversaire de la fête de la Fédération, qui elle-même célébrait la prise de la Bastille en 1789. C'est pas le premier, d'ailleurs, c'est le deuxième anniversaire de la fête de la Fédération. La fameuse journée du 14, écrit la princesse, s'est passée tranquillement. On a beaucoup crié « Vive Pétion, les sans-culottes, les brigands, au diable Lafayette !» Lorsque nous sommes revenus, toute la garde qui accompagnait le roi n'a en revanche cessé de crier « Vive le roi !» Ils étaient de tout cœur et toute âme, cela faisait du bien. Depuis, Paris est fort calme. Ça ne va pas durer. On s'approche évidemment de la terrible journée du 10 août 1792. Le 8 août, voici ce qu'écrit la princesse à Madame de Rachecourt. J'ai l'honneur de souhaiter le bonjour à Madame de Rachecourt, donc sa mère, et à l'agonie de mon titre de sœur du pouvoir exécutif. Eh oui, puisque le roi vient de perdre son pouvoir. Ça ne manque pas d'humour d'ailleurs comme expression. À l'agonie de mon titre de sœur du pouvoir exécutif, et de lui faire mes compliments sur le nouveau citoyen actif que sa belle-sœur vient de mettre au monde. Vous voyez que la princesse ne manque pas d'humour. Mais ne plaisant-on plus, on dit que l'Assemblée ne veut plus la déchéance, mais qu'elle y sera forcée. On dit que le roi doit déloger d'ici un peu de la force pour loger à l'hôtel de ville. On dit qu'il y aura pour cela un mouvement très fort dans Paris. Y crois-tu ? Pour moi, je n'en crois rien. Je crois à du bruit, mais sans résultat. Voilà ma profession de foi. Au reste, tout est aujourd'hui d'un calme parfait. La journée d'hier s'est passée de même. Et quoi qu'il soit de bonne heure, je crois que celle-ci limitera. Adieu, je ne te dis rien parce que j'aurai trop de choses à te dire. Elle se trompe. Alors là, on peut dire que la lucidité de Madame Élisabeth est prise en défaut, puisque au contraire on est à l'avant-veille des événements épouvantables du 10 août 1792 avec ce sac des Tuileries, avec le sang qui va couler et la chute de la monarchie en France. Que m'arrivera-t-il ? Oh mon Dieu, je n'en sais rien. Ça, c'était les mots de la prière que disait tous les soirs Madame Élisabeth. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu ou ordonné de toute éternité. Cela me suffit, oh mon Dieu, cela me suffit. Je vous fais le sacrifice de tout et j'unis ce sacrifice à celui de Jésus-Christ, mon divin sauveur. Je vous demande en son nom et par les mérites de la patience dans mes peines et la soumission parfaite pour ce qui vous est dû, pour tout ce que vous voulez ou permettez, ainsi soit-il, une prière qui était tout à fait conforme à ce tempérament fervent et plein d'une fureur rentrée, nous l'avons maintenant bien perçu, le tempérament de Madame Élisabeth.
Un extrait sur Europe 1 du Salve Regina de Pergolès, Franck.
Le Salve Regina, on peut dire que la princesse, à partir de ce moment-là, commence à descendre aux enfers. Hein. Il va y avoir le petit épisode des feuillants, et puis la famille royale est en prison à la tour du temple. Madame Élisabeth est là, qui soutient sa belle-sœur, qui s'occupe des enfants, jusqu'à ce que les enfants soient peu à peu séparés de la famille royale. Le roi est condamné puis exécuté. La reine le sera à son tour en octobre 1793. Et là, Madame Élisabeth reste absolument seule, Anne Bernay.
Il faut penser que Madame Élisabeth a eu peut-être 10 ou 12 fois l'occasion de quitter Paris, de quitter la France, se mettre à l'abri. Qu'elle a toujours été très lucide. Vous disiez tout à l'heure, elle se trompe. Quand elle se trompe dans ses lettres, c'est volontaire. Quand elle écrit à Madame de Bombelles ou à Madame de Rachecourt, elle les rassure. Elle a une peur effroyable qu'elle revienne. Et elle ne veut surtout pas qu'elle revienne. Donc elle les rassure.
Donc elle leur dit tout est calme, tout va bien,
tout
pour
va
être sûre qu'elle ne revienne pas. En fait.
Voilà, précisément, c'est pour les protéger. Mais elle-même est d'une lucidité terrible. Et dès le début, dès qu'elle entre au temple, elle sait que tout est perdu. Elle sait que tout est perdu pour son frère, très probablement pour sa belle-sœur, et elle-même n'a guère d'illusions.
C'est assez inattendu, ça. On aurait pu penser, on comprend, disons que, après, c'est une question politique et historique, mais on peut comprendre que Louis XVI ait été exécuté. C'est déjà une affaire beaucoup plus complexe pour ce qui concerne la reine. Mais alors, la sœur du roi, pourquoi la conduit-on à l'échafaud ?
En fait, c'est plutôt la période finalement. Quand Marie-Antoinette est exécutée, on décide de son transfert à la conciergerie au mois d'août 93. L'Assemblée à ce moment-là a affaire à l'invasion extérieure, au sud de la guerre de Vendée, à l'intérieur. Donc il y a une situation de crise et puis on décide d'éradiquer tout ce qui reste de la royauté. Donc, dans un premier temps, c'est la reine qui est désignée comme cible. Déjà, on met du temps avant de l'exécuter. On attend le mois de novembre. Et on peut se dire, après, on aurait pu passer directement Madame Élisabeth. Et on attend finalement le mois de mai, ce qui est très long. En fait, pour des raisons qui... Pourquoi selon laps de temps? C'est assez difficile à déterminer. Sans doute, y a-t-il encore là-dessus des choses à découvrir?
Il y a probablement des choses à découvrir encore, mais ce qui est certain, c'est que Madame Elisabeth, même en prison, et malgré les campagnes diffamatoires dont elle a fait l'objet dès 1789-90, qui sont des campagnes qu'on a là encore largement occultées parce qu'elles ont une dimension sexuelle qui gênait beaucoup les historiens, Madame Elisabeth est intouchable. On peut raconter les pires horreurs sur les prétendues orgies du petit Montreuil qui imitaient moins l'égalité que la recherche du plaisir. On peut raconter tout ce qu'on veut, tout le monde sait que Madame Elisabeth est d'une vertu inentamable et c'est bien ce qui ennuie des gens comme Hébert. C'est d'ailleurs pourquoi il se déchaîne contre elle. Et peu à peu, l'opinion publique, une partie de l'opinion publique va se retourner. On va voir dans le courrier de la presse paraître des lettres de braves bourgeois de province qui disent « Mais comment se fait-il que la sœur Capet n'est pas encore payée ?» Et cela ennuie beaucoup Robespierre. Pour quelle raison? Ce que nous disions à l'instant, il est très difficile de savoir pourquoi Robespierre ne veut pas condamner Madame Elisabeth. Elle n'a pas vraiment de valeur politique. Et pourtant, il va faire traîner les choses jusqu'en mai 94, au moment où ce sera sa tête à lui qui sera en jeu.
Madame Elisabeth sera exécutée le 10 mai 1794 et elle est la dernière à monter à la guillotine. Elle a soutenu tous les autres, elle les a accompagnés, décidément cette femme aura eu une force morale extraordinaire jusqu'à la mort.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons à Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI.
Et oui, alors qu'est devenu le charmant domaine de Madame Elisabeth à Montreuil, sur l'avenue de Paris, tout à fait à l'est de la ville de Versailles? Eh bien, depuis 1984, il est la propriété du Conseil Général des Yvelines. Et nous avons au téléphone le président du Conseil Général des Yvelines, Alain Schmitz. Bonjour Alain Schmitz.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup de nous prendre comme ça au téléphone. Vous êtes en train de préparer une exposition qui aura lieu du 27 avril au 21 juillet prochain au domaine de Madame Elisabeth et qui s'appelle « Madame Elisabeth, une princesse au destin tragique ». On va essayer de faire redécouvrir le personnage au public.
Oui, tout à fait, et c'est tout à la fois faire découvrir le personnage, bien sûr, qui a donné son nom au domaine, mais également permettre au plus grand nombre de découvrir ce domaine qui est exceptionnellement situé le long de l'avenue de Paris, c'est-à-dire la grande avenue qui mène au château, que tout un chacun connaît bien, et qui est un parc de 8 hectares entièrement clos de murs, miraculeusement
préservé. Très agréable parc, il faut dire.
Voilà, et qui a échappé non seulement au morcellement lié à la période révolutionnaire, mais également qui a échappé à la convoitise des promoteurs dans les années 60-70 et qui est parvenu intact jusqu'à nous et, comme vous le disiez, racheté par le Conseil Général après les lois de décentralisation 84.
Alors la maison a beaucoup changé depuis Madame Elisabeth. Il faut peut-être en raconter l'histoire en deux mots et dire dans quelles circonstances le roi Louis XVI a été amené à pouvoir faire le cadeau de cette maison à sa sœur.
Voilà, c'est en fait, il a voulu lui offrir un peu l'équivalent du Trianon à son épouse Marie-Antoinette. Nous étions donc à Montreuil, village distinct de Versailles à l'époque, puisque ça n'a été rattaché à Versailles qu'en 1786. Et cette propriété s'est trouvée être à vendre, alors qu'elle appartenait à la gouvernante des enfants de France, la princesse de Guéménée, suite à une faillite retentissante de son mari. Ce qui fait que...
C'est un des plus gros faits divers de la fin de l'Ancien Régime, cette faillite des Rohan-Guéménée. En fait.
Des Rohan-Guéménée. Et alors, la princesse, quand elle était toute jeune, avait l'habitude de venir dans cette maison, donc elle connaissait, qu'elle appréciait, qu'elle aimait. Et le roi voulut lui en faire la surprise. En 1783, la jeune Madame Elisabeth n'avait tout au plus que 19 ans. Et c'est Marie-Antoinette qui, lui ouvrant les portes du domaine, lui a dit « Eh bien, cette maison est désormais la vôtre, par la volonté du roi, votre frère. »
Quelle belle idée de lui consacrer enfin une grande exposition. C'est une exposition qui est menée en partenariat avec le château de Versailles, bien sûr, avec le Louvre, avec la BNF.
Tout à fait, avec le musée Carnavalet, avec le musée du costume, donc tous les grands qui sont les grands prêteurs, des prêteurs particuliers également qui ont pu conserver des souvenirs venant directement de Madame Elisabeth, souvenirs offerts par elle à ses suivantes, donc dont on peut suivre vraiment la filiation. Mais c'est surtout un partenariat étroit avec le château de Versailles et c'est une grande chance pour nous, puisque nous n'avons pas le statut de musée, si vous voulez, de pouvoir accueillir dire, des objets infiniment précieux comme le mobilier notamment qui garnissait autrefois les salons du domaine et qui ont encore leur garniture d'époque, c'est-à-dire en tapisserie, en canevas, brodée par Madame Élisabeth et ses suivantes.
Mais on va se précipiter à Versailles, au domaine de Montreuil, pour voir tout ça. Merci beaucoup Alain Schmitz. Je rappelle que vous êtes président du Conseil Général des Yvelines. Une grande biographie, une grande exposition, Madame Élisabeth va peut-être enfin revenir à l'honneur.
Elle le mériterait, c'est une femme d'une grande modernité.
Oui, c'est vrai qu'elle elle nous parle finalement. Et les mots même qu'elle emploie, si je puis dire, sont les nôtres. Hein.
Moi je rejoins tout à fait Anne Bernet sur cette question de la modernité. C'est un personnage vraiment très intéressant et qui effectivement, même à son époque, n'a peut-être pas eu toute la place qu'elle aurait pu avoir parce qu'elle était une femme en fait, sans doute.
Et parce qu'elle a beaucoup gêné. Je pense qu'elle dérangeait, elle n'entrait pas dans les cadres tout faits.
Certains ont parlé de béatification, voire de canonisation. Vous pensez qu'il faut en faire une sainte ?
La cause est ouverte depuis très longtemps, et comme beaucoup de causes de la Révolution, elle sera très longue à aboutir si elle aboutit un jour.
Oui. En tout cas, ce qui est utile, je pense, c'est de faire mieux connaître le personnage, qui a pas mal à nous apprendre à travers les témoignages, la correspondance, enfin tout ce qui fait le suc de votre biographie. Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, d'Anne Bernet, c'est édité chez Talendier. Et puis je cite également Le Sacrifice du Soir, Vie et mort de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI. Ça, c'est de Jean de Vigry et c'est aux éditions du Cerf. C'était dans la collection Histoire il y a à peu près 2 ans. Il y a d'ailleurs un certain nombre de biographies de Madame Élisabeth, mais en toute sincérité, ce n'est pas parce que vous êtes dans ce studio que je le dis, Anne Bernet, la vôtre est véritablement nouvelle. Elle apporte beaucoup et vous avez porté sur ce personnage un regard tout à fait neuf et particulièrement intéressant. Je suis très heureux qu'on ait pu mettre ce livre en avant aujourd'hui. Donc c'est publié chez Talendier. Et puis, je rappelle bien entendu la biographie de Madame Royale, Marie-Thérèse de France, l'orpheline du Temple, d'Hélène Becquet, et ça c'est publié chez Perrin.